France Culture. Le journal Servane de Pastre.
Bonjour à tous. Cela fait bientôt 30 ans qu'Itzhak Rabin a été assassiné à Tel Aviv par un extrémiste juif. Hier, des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées en mémoire de cet homme, artisan des accords d'Oslo. Et puis les vignerons ont hâte de Noël, synonyme de vente, alors que le secteur est à la peine entre mauvaises vendanges et baisse de la consommation. Israël menace d'intensifier ses attaques contre les derniers bastions du Hezbollah dans le sud du Liban, près d'un an après un accord de trêve dans la région. Hier, 4 personnes sont mortes dans une frappe israélienne, selon les autorités libanaises. L'émissaire américain Tom Barak a exhorté hier le Liban à engager des pourparlers directs avec Israël. Israël, où des dizaines de milliers de personnes ont commémoré hier la mort de Yitzhak Rabin. Un rassemblement a eu lieu à Tel Aviv, sur la place sur laquelle l'ancien Premier ministre a été assassiné par un extrémiste juif. C'était le 4 novembre 1995. Artisan du dialogue entre Israël et la Palestine, sa mort continue à hanter le camp de la paix dans le pays, alors que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est chaque jour un peu plus fragile. Un reportage de Sharon Aronovitch.
Le dernier discours d'Yitzhak Rabin résonne à travers la place. Au son de la voix rocailleuse du Premier ministre, les larmes coulent sur plusieurs visages.
Tout Israélien qui a vécu ce moment se souvient exactement où il était quand il a entendu la nouvelle de sa mort. C'était un choc horrible. Et depuis, les choses n'ont fait qu'empirer. Je n'ai jamais eu aussi peur.
Des dizaines de milliers d'Israéliens se sont rassemblés ce soir-là. Cette même foule qui a manifesté pendant 3 ans contre le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, explique Omer, une manifestante.
Il y a tellement d'Israéliens et d'Israéliennes qui veulent un autre gouvernement, qui ne veulent conquérir aucun territoire et qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'armée, ni pour qu'ils meurent, ni pour qu'ils soient instrumentalisés par les extrémistes.
Les figures politiques de l'opposition défilent sur scène, sur les pancartes et dans les discours. Le même mot revient sans cesse, la paix.
C'est un rêve qui s'est effondré au cours des 30 dernières années. Mais nous ne pouvons plus mettre la paix de côté. C'est elle qui doit nous guider. C'est ce qui garantira un avenir meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Uniquement par la paix, par le dialogue avec tous.
Les derniers mots d'Yitzhak Rabin étaient les paroles d'une chanson pour la paix, repris par la foule ce soir-là. Il sera assassiné à bout portant quelques instants plus tard.
Sharon Aronovitch en Israël pour France Culture. Yitzhak Rabin, qui a donc reçu le prix Nobel de la paix en 1994 pour son implication dans les accords d'Oslo. En Grande-Bretagne, 10 personnes ont été hospitalisées après une attaque à l'arme blanche hier soir dans la région de Cambridge. 9 sont dans un état grave. Le Premier ministre Keir Starmer décrit des faits extrêmement préoccupants. 2 personnes ont été interpellées. Depuis 3 mois, les petits colis en provenance de l'étranger sont taxés aux États-Unis. L'objectif, freiner les géants du commerce en ligne venus notamment d'Asie. En pratique, cette taxe pénalise surtout les petites entreprises au Canada. Certaines accusent le coup. Leur principal marché, les États-Unis, est devenu un luxe que toutes ne peuvent plus s'offrir, Nafia Libert.
J'ai des dragons à faire, j'ai un hibou.
Laetitia Durand brode des peluches chez elle, en banlieue de Montréal, pour une clientèle qu'elle a bâtie en ligne.
Puis je vends 80% aux États-Unis.
Mais depuis le 29 août, ses ventes décrochent. Les petits colis sont désormais taxés, jusqu'à 35% pour les vendeurs canadiens.
35%, c'est à peu près la marge que je gagne. Donc c'est très violent.
Autre difficulté, les transporteurs. Ils avancent les frais et facturent leurs services au prix fort.
Un colis d'une valeur de $15 a coûté à l'acheteur américain l'équivalent de $80 canadiens. C'est beaucoup.
Beaucoup trop pour certaines petites entreprises qui craignent de ne plus être compétitives. Alors d'autres préfèrent demander une exonération qui est réservée aux produits fabriqués au Canada. L'option semblait donc évidente pour Madeleine Beaulieu, une maroquinière qui confectionne tous ses sacs dans son atelier montréalais.
Mais là, ça me met vraiment un bâton dans les roues. Là.
À chaque envoi vers les États-Unis, elle doit prouver l'origine de tous les matériaux qu'elle utilise, un casse-tête administratif qui finit par la décourager.
Ben moi, je ferme mon entreprise, hein, parce que c'est difficile. Puis la sécurité financière est absolument pas là.
Elle n'est pas la seule à baisser les bras.
C'est vraiment une tuile énorme d'un point de vue économique pour notre secteur.
Damien Silès, président du Conseil québécois du commerce de détail, redoute même une vague de fermeture.
C'est un tsunami qui est en train de nous engloutir.
Un choc que les géants du commerce peuvent encaisser, mais qui rebat les cartes pour les petites entreprises canadiennes.
Nafia Libère à Montréal pour France Culture. Orchestre symphonique, spectacle laser, le grand musée égyptien a été inauguré avec Fast. Hier au Caire, ce musée gigantesque conserve plus de 100 000 vestiges de l'Égypte antique et notamment le trésor de la tombe de Toutankhamon. On en parle plus en longueur dans le journal de 12h30 avec l'invité Mercedes Volet. Elle est directrice de recherche émérite au CNRS. Les députés retrouveront demain les bancs de l'Assemblée nationale après un week-end de pause. Ils reprendront l'examen du budget. Les débats ont été houleux. Avant-hier, vendredi, la taxe Zucman a été rejetée. Le gouvernement, lui, appelle au compromis, bien conscient que le chemin reste semé d'embûches, Aurélie Herbemont.
On peut chuter à n'importe quel moment, ça peut dérailler 10 fois, confie Sébastien Lecornu aux Parisiens. Pour éviter la censure, il évoque un budget de transition. En clair, un compromis qui ne satisfera personne et dont le seul objectif est d'assurer la stabilité. Un appel à la stabilité relayé par le ministre de l'Économie. Dans la tribune, Roland Lescure s'adresse au PS. Le compromis doit fonctionner dans les deux sens. Manière de dire aux socialistes qu'eux aussi doivent faire un pas vers leur droite. Réponse du patron des députés PS, Boris Vallot. Il reste beaucoup trop d'horreurs, d'économies injustes. À ce stade, la copie ne convient donc toujours pas au PS. Comme le résume le locataire de Bercy, la fin n'est pas écrite. En effet, personne ne sait à quoi ressemblera le budget, s'il sera voté et si le gouvernement passera l'automne.
Et mardi, c'est le budget de la sécurité sociale qui doit être examiné par les députés. L'instabilité politique qui profite au Rassemblement national, selon un sondage publié dans la Tribune dimanche, le parti d'extrême droite serait largement en tête de l'élection présidentielle si celle-ci se tenait aujourd'hui. Avec plus de 35% des voix, c'est 4 points de plus qu'au mois d'avril où un sondage similaire avait été réalisé. Les deux suspects placés en détention provisoire hier dans l'enquête sur le braquage du Louvre se connaissaient. Les de la procureure de Paris, Laure Becquiot, il y a quelques minutes chez nos confrères de France Info. Ils ont été impliqués dans une même affaire de vol, affaire pour laquelle ils ont été condamnés il y a 10 ans. Il s'agit d'un homme et d'une femme, tous deux nient les faits qui leur sont reprochés. Leur arrestation porte à 4 le nombre de personnes écrouées dans ce dossier. Les bijoux dérobés d'une valeur de 88 millions d'euros restent, eux, introuvables. Selon la procureure de Paris, l'enquête ne permet pas pour le moment d'affirmer l'existence d'une complicité au sein du musée. Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, va réunir à partir de mardi prochain les banques et les associations de consommateurs. L'objectif, les rassurer sur le durcissement des règles sur les découverts bancaires. C'est une application d'un règlement européen. Il doit entrer en vigueur l'année prochaine. Noël, c'est dans moins de 2 mois et ces fêtes sont attendues avec impatience par les vignerons. Alors que les dernières vendanges ont été historiquement basses, la consommation d'alcool baisse aussi. Magali Homo, vous êtes allée à leur rencontre à l'occasion du Salon des vignerons indépendants à Lyon.
Clémentine Beau est installée depuis près de 10 ans dans le Jura. Elle a vu le secteur évoluer, les prix augmenter et les habitudes changer.
On boit par occasion, par événement très particulier et nous, on a besoin d'avoir des ventes un peu plus, des consommations plus importantes que ça. Le vin fait partie de l'histoire française, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le corps et pour l'esprit.
Et c'est pas Yves, amateur de bon vin, qui dirait le contraire.
Il faut acheter bon et boire peu.
Ah oui, 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 on boit du meilleur vin. On n'en boit pas souvent, mais quand on boit, on ouvre une bonne bouteille.
Les Français boivent moins de vin, qu'à cela ne tienne, pour Régis Falxa, basé en Gironde, vice-président de la Fédération des vignerons indépendants de France. Il mise aussi sur l'export. Ça représente 20% de ses ventes.
Moi, j'ai des clients en Amérique du Sud, j'ai des clients en Asie, et à chaque fois qu'on parle de Bordeaux, ils ont les yeux qui pétillent, au même titre qui pétille quand on leur parle du luxe, quand on leur parle des fromages, quand on leur parle de tout cela. Il va falloir que les choses soient prises en main par nos gouvernants.
Il appelle justement, pour dynamiser le secteur, à développer les ventes à l'étranger, aller chercher de nouvelles parts de marché en Inde ou en Amérique latine.
3 sénateurs appellent également le secteur à se réformer dans un rapport rendu mercredi. Ils recommandent à la filière d'organiser des assises avec les vignerons et les distributeurs. La météo pour finir avec de la pluie aujourd'hui, notamment dans l'est du pays. Il fera 15 degrés à Clermont-Ferrand, 17 degrés à Ajaccio, 17 degrés à Bordeaux et 21 degrés à Ajaccio. C'est la fin de ce journal. Un grand merci à Antoine Boucher à la réalisation et Olivier Arnay à la technique.